des amis autour de la table. C'est juste parfait et convivial.
C'est vrai que moi, ce qui me plaît, c'est que vous aimiez mon choix.
Est-ce qu'on a le droit de lâcher l'assiette ?
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants.
On avait fait une belle joue de bœuf quand vous étiez venu.
C'était magnifique.
Hein, la dernière fois.
C'est pour ça qu'on revient, je vous dis tout de suite. Hein.
Laurent Bariotte.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, hein, comme tous les samedis sur Europe 1. De la fourche à la fourchette, nous sommes là pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Alors ce samedi, on va faire le tour des céréales. Maïs, petit épeautre, riz, avoine, amarante. Les céréales sont souvent mises au bord de l'assiette, hein, dans la cuisine française. Eh bien, on va les remettre au centre avec une jeune chef engagée. C'est Manon Fleury qui sera avec nous dans un instant. On va aussi fêter les 5 ans du Refettorio, un restaurant solidaire qui voit de grands chefs passés derrière ses fourneaux. Et puis, le grand Jacques Weber vient casser la croûte avec nous, un amoureux des mots et de la table. En attendant, voici mes bons vivants du jour. Il sait où pousse l'avoine noire et il a les noms de ceux qui cuisinent l'orge perlée. C'est le journaliste gastronomique Philippe Toinard. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Saint-Estèphe, Saint-Émilion, Saint-Joseph, la période de carême lui permet de réviser tous les saints de son catéchisme viticole. Vous le lisez dans la revue du vin de France, c'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Pour y rajouter le Saint-Amour aussi, mon cher Laurent.
Absolument.
Et je vous le dédicace à tous.
Un beau Saint-Amour, priez pour nous. Allez, en route, joyeuse troupe. Alors, à quelques jours du printemps calendaire, posons-nous la question, les amis, quel est votre goût de la semaine ? Je vous la pose, tiens, Philippe Toinard.
Eh bien, moi, ce sera une table nantaise. Ça s'appelle le Manoir de la Régate. C'est au bord de l'Erdre, face au château de la Gâcherie. Alors, si je vous en parle, c'est parce que moi, j'aime bien les jolies histoires de famille. Et celle-ci, elle commence avec Loïc Perroux, le chef, qui a transmis sa maison à Mathieu, son fils, qui a ensuite été rejoint par sa sœur Anne-Charlotte. Et alors là, vous avez un duo d'enfer qui est à la barre de la maison. En 2001, ils ont eu l'étoile rouge Michelin, l'étoile verte. Et en 2022, Anne-Charlotte, elle a reçu le prix Michelin de l'accueil du service. Ils n'ont pas 30 ans. C'est 40 euros au déjeuner pour découvrir une cuisine extrêmement locale avec de la carpe, du cendre, du mulet de Loire, beaucoup de légumes du jardin, des œufs de brochet fumés, du tarama d'œufs de cendre, des goujonnettes d'anguilles, beaucoup de fleurs, du pain maison, on va en parler avec les céréales, avec du blé de Redon, qui est une variété ancienne, des dressages extrêmement minutieux. C'est un vrai coup de cœur, il faut aller dans cette maison, le Manoir de la Régate à Nantes.
Eh ben voilà, voilà une belle adresse. Merci Philippe Toinard. Olivier Pouls, votre goût de la semaine, camarade.
Un petit coup à boire, une bouteille, les amis.
Ça vous ressemble pas.
Bah oui, alors vous savez, on quand même goûté pas mal de choses dans ma vie, et là j'ai découvert ou redécouvert quelque chose que je ne connaissais pas bien. C'est un cépage qui s'appelle le Gamaret. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Ah, j'ai vu que vous aviez mis ça sur Instagram, pour tout vous dire.
Oui. Ça n'a rien à voir avec le curé de Gamaret.
Non, mais, c'est non, le Gamaret avec un G. Et alors le Gamaret, c'est un cousin suisse de notre Gamay. Le Gamay qui est vraiment le cépage emblématique du Beaujolais. Ça ressemble un petit peu à du Beaujolais. C'est peut-être un peu plus épicé, un petit peu plus structuré aussi. C'est le domaine Prapin en Coteaux du Lyonnais qui en produit sous l'étiquette, très belle étiquette, l'envol du Milan Noir. C'est un vin tout à fait abordable qui coûte autour de 13-14 euros. C'est délicieux et c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. Et vive les cépages un peu originaux.
Et vive la diversité.
Exactement,
encore une fois.
Dans le monde du vin comme ailleurs.
On en revient toujours à la même chose pour avoir une belle palette aromatique de goût du côté du vin et de la table. Mon goût de la semaine, c'est le goût du placard, figurez-vous. Un petit goût de flemme, un soir à la maison, un frigo un petit peu vide. On est dans la cinquième saison, hein. C'est la fin des légumes d'hiver et ceux de printemps arrivent simplement. Donc j'ai fait
qu'est-ce qu'il y avait dans votre placard ?
Ben, il y avait du maïs et puis un bocal de manchon de canard du sud-ouest. Donc j'ai fait une soupe de maïs, eau bouillante à la bouilloire. Dans le blender, la boîte de maïs, du cumin, l'eau bouillante. Je mixe longtemps pour avoir une belle texture crémeuse, onctueuse avec le maïs. Et j'ai réchauffé mon bocal de manchon de canard que j'ai effiloché par-dessus cette soupe. Et ça marche toujours très bien, le maïs et le canard, puisqu'on gave les canards avec du maïs. Et c'est une belle correspondance. Voilà, ça c'est quelque chose de très simple et économique à faire en plus.
Bah écoutez, je viendrai manger chez vous même quand il n'y aura rien dans le frigo.
C'est l'heure d'aller au marché, les amis. Vous l'avez remarqué, en un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de plus de 14%. Alors faites-vous plus attention au prix. En faisant vos courses, bien oui, Marion Sauveur vous a tendu le micro au marché du centre de Clichy, dans les Hauts-de-Seine.
Tout a augmenté. Disons, avant, c'était dans les 50 euros. Maintenant, j'arrive facilement à 80 et on les dépasse.
Ouais, ouais. J'achète moins, vraiment ce qui est nécessaire. J'ai acheté 3 morceaux de poisson qui étaient en promo.
De la perche.
Voilà. Avant, je pouvais prendre 1 kilo, 2 kilos, mais là, non.
Des fruits, j'ai pas osé, sauf des oranges à jus parce que c'est moins cher.
On en profite, la pêche à chercher ce matin.
veuillez regarder les étiquettes, vous faites attention au prix ?
Oui, bah, en particulier quand j'achète quelque chose comme des mangues, parce que ça peut vite monter. S'il y a un poste de dépense qui, pour moi, ne doit pas bouger, c'est la nourriture. Des bons produits, peut-être un peu moins souvent, notamment quand la viande a un peu pris ou le poisson. Mais en tout cas, fruits et légumes, non, je ne m'abstiens pas.
Des clémentines, il y en a encore, et elles ne sont pas données, hein, 4-5 euros au kilo, oui. Il faut bien manger des fruits et légumes, comme on dit.
Eh oui, tout augmente et on le voit encore une fois et on l'entend avec le micro-trottoir de Marion Sauveur. Philippe Toinard, on se rend compte que certaines personnes même refusent et se privent d'aliments par rapport à cette inflation. Hein.
Oui, puis ils sont nombreux. Il y a une étude qui est sortie de l'Observatoire 7LM avec Harris Interactive qui indique que 69% des Français auraient renoncé à acheter certains produits au cours des 12 derniers mois, principalement des plats préparés, des poissons frais, de l'alcool, de la viande et des biscuits apéritifs. Et 33% n'achèteraient plus de fruits et de légumes.
Alors, ça, c'est plus problématique.
Alors, oui. les plats préparés, hein, je le redis, quand on prend les mêmes ingrédients qu'un plat préparé et qu'on le refait à la maison, malgré l'inflation, ça coûte quand même toujours
moins cher.
Entre 2 et 3 fois moins cher. Restez avec nous, on va casser de la graine tout à l'heure avec Manon Fleury. Le temps pour moi de vous rappeler aussi qu'Europe 1, c'est la radio des séries. Et vous pouvez voter pour votre série préférée et puis gagner un week-end VIP à Cannes pour 2 personnes en hôtel 4 étoiles pour assister à l'ouverture du festival Cannes Série. Pour participer, c'est tout simple, hein, vous envoyez Série au 739-21. C'est un SMS et vous pourrez peut-être gagner un beau week-end VIP. Voilà, bonne chance les amis.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Riz, boulgour, amaïs, amarante, petite épeautre, orge perlée, voilà quelques-unes des céréales qu'on trouve dans nos commerces. Et pourtant, eh ben nous avons toujours l'impression de tourner en rond en cuisine. Je vous pose la question, tiens les amis, avant d'accueillir notre invité Manon Fleury, Olivier Pouls et Philippe Toinard, pour quelles graines vous en croquez ?
Je dois d'abord vous confesser que je ne mange pas énormément de céréales.
C'est marrant. Vous, l'ami de la crème et du beurre.
Vous étonnez.
Ça m'étonne.
Je n'en mange pas énormément. J'ai une petite faiblesse toutefois pour le petit épeautre qui cuisinait à la façon d'un risotto.
Ah, avec beaucoup de beurre.
Bon, on pourrait en mettre éventuellement un petit peu dedans, ça ne gâche rien.
J'adore le goût rustique du petit épeautre. Et vous, Philippe Toinard ?
Moi, c'est plus basique, c'est le riz. Après, il y a d'autres céréales qui sont dans mes plats, sauf que c'est en produits transformés. Donc, j'ai travaillé un peu la semoule, ce que j'aime beaucoup, mais ça vient du blé. Et le sarrasin, parce que je mange beaucoup de galettes, parce que je suis breton.
Eh ben voilà, fidèle à vos origines. Et voilà. Bien, on accueille la chef Manon Fleury, une amoureuse des céréales. Elle régale en ce moment les Parisiens au fourneau du perchoir Doménil. C'est au Chalet des Îles, dans le bois de Vincennes. C'est l'ancienne chef du Mermoz, une adresse mythique du bas des Champs-Élysées qui existe toujours aujourd'hui et qui est toujours très très fréquentable. Elle est avec nous. Bonjour Manon Fleury.
Bonjour Laurent.
Merci d'être là.
Et merci à vous.
Et bravo pour ce beau livre, Céréales, comme son nom l'indique, les recettes d'une chef engagée. C'est paru chez Flammarion. Alors, c'est plus qu'un livre de recettes. Hein. Il y a beaucoup de recettes, bien entendu, mais il y a de beaux portraits de producteurs engagés, comme vous, pour nous faire manger de bonnes céréales et une belle biodiversité. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des fiches comme ça sur ces produits, sur ces céréales qu'on ne connaît pas bien et que vous nous proposez d'apprivoiser. Qu'est-ce qui vous plaît, tiens, dans les céréales, Manon Fleury ?
Ben d'abord, je pense que c'était un aliment, un ingrédient que moi j'avais, qui était toujours présent dans mon alimentation au quotidien, parce que ma mère était déjà pro bio et alimentation vraiment très diversifiée quand j'étais enfant. Typiquement le sarrasin, le quinoa, des choses comme ça, quand j'avais déjà une dizaine
d'années. Alors sarrasin, quinoa, qui ne sont pas des céréales, étonnamment.
Qui ne sont pas des céréales, mais qui sont des pseudo-céréales, plutôt des plantes, mais qui sont, qu'on intègre dans la famille des céréales. Et ensuite, en fait, dans mon parcours de cuisinière classique, j'ai pas retrouvé ces céréales. En fait, j'ai pas eu beaucoup de techniques, etc., qui m'ont été communiquées sur ces céréales. Donc, je pense que je les ai toujours un peu laissées dans le domaine de la cuisine du quotidien. Et ensuite, c'est plutôt quand je suis allée cuisiner aux États-Unis que j'ai découvert plein de variétés de céréales.
Lesquelles alors ?
Bah, il y avait, alors c'était des noms très anglais, etc. Donc il y avait de l'épeautre.
On est bilingue, vous pouvez y aller. On va être.
Il y avait le spelt, le triticale qu'on trouve pas trop en France, qui est plutôt destiné à l'alimentation des animaux.
Ouais.
Voilà, plein de variétés comme ça qui moi me paraissaient. Enfin, je les ai jamais vues dans des cuisines, dans des assiettes gastronomiques.
Alors vous avez travaillé auprès de grands chefs, Pascal Barbeau, Alexandre Couillon qui vient d'avoir 3 étoiles du côté de Noirmoutier. Et c'est vrai que c'était un petit peu le parent pauvre de la gastronomie française, hein, la céréale, jusqu'à aujourd'hui avec des chefs comme vous qui ouvrent la voie.
Mais probablement parce que dans l'histoire de la gastronomie française, les céréales, c'était des plats pauvres.
Exactement.
On mangeait ça dans les fermes, dans les familles, quand il n'y avait pas mieux à manger. On mangeait des céréales et les chefs, quand ils ont commencé à ouvrir le restaurant et à faire une cuisine bourgeoise, ben la céréale n'était pas bienvenue à table. On préférait mettre de la viande, des légumes plus prestigieux. On parlait de la crème, le beurre, etc. Et la céréale, ça restait un plat de pauvre.
Chou farci à l'avoine et au lard, bouillon et couscous d'orge, poisson pané aux flocons d'avoine, soupe de maïs et épinards, ce sont des recettes de votre livre. C'est un beau terrain de jeu, la céréale.
Oui, c'est une incroyable diversité. Et c'était aussi, l'enjeu, c'était de montrer que c'était à la fois pas du tout ennuyeux, gourmand, et d'apporter des clés pour une cuisine du quotidien des céréales, donc à la fois des techniques de trempage, de cuisson, de manières de les agrémenter aussi, parce que bien souvent on n'a pas trop les clés, on trouve que c'est un peu sec, que c'est un peu collant, que c'est un peu roboratif. L'idée c'était de rendre quelque chose, de les rendre attrayantes.
Non, il faut les rendre sexy, parce que honnêtement, la céréale en tant que telle, c'est quand même un peu,
exactement,
un peu ennuyeux.
Ça a failli être un nom de livre, mais j'ai pas poussé jusque-là.
La céréale sexy. Mais ce qui est étonnant, Olivier, aussi, c'est que quand on fait le compte des AOC ou des AOP, des appellations d'origine protégée,
des IGP aussi.
Et des IGP, il y a très peu de céréales. Il n'y a pas de céréales en AOC.
Non, non, il y a le riz de Camargue, le petit épeautre de Haute-Provence, et la farine de blé noir breton. Et c'est tout.
Et on pourrait imaginer dans un futur proche que nos amis de quinoa d'Anjou, qui ont une production assez importante, hein, parce qu'ils produisent un tiers du quinoa qui est consommé en France, eux, ce serait logique que, je ne sais pas ce qui c'est dans les tuyaux, mais qu'ils déposent un dossier pour obtenir soit une IGP, soit même une AOP, parce que c'est devenu une production française.
Mais c'est vrai que ça vaut le coup. Le riz rouge de Camargue, j'en suis dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez,
ouais,
Manon Fleury.
On oublie souvent qu'il y a du riz en France. Et je pense que c'est intéressant d'aller voir des recettes qui viennent d'ailleurs, notamment des riz qui pourraient être des sortes de riz, des paellas espagnols, de les prendre et de se les approprier et de les faire avec des riz de France. Et des riz français.
Mais vous nous ferez une recette tout à l'heure autour du riz, vous nous donnerez quelques trucs et astuces pour bien cuisiner le riz. Mais avant, je voudrais qu'on parle de l'amarante, qui est très présente dans votre livre céréales, qui est une plante, une céréale. Ça ressemble à quoi déjà pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne connaîtraient pas l'amarante ?
Alors, c'est une grande plante qui est très résistante. Donc on s'aperçoit qu'en fait elle rentre aussi très bien dans l'écosystème maraîcher. Moi j'ai pas mal de mes maraîchers qui en font pousser à côté des légumes, qui a des très grandes feuilles aussi, enfin des petites ou grandes feuilles.
C'est une belle plante.
C'est une très belle plante. Ça peut être rouge, avec un rouge pourpre très intense, ou vert. Avec des tiges, et au bout on a ces petites graines qu'on fait sécher en général et qu'on récupère, et c'est un travail très laborieux de les récupérer et de les faire sécher.
Alors justement, c'est ce que vous avez fait, vous avez fait de beaux crackers d'amarante, hein, c'est ça qu'on a.
Crackers d'amarante et de graines de lin, on vous entend croquer, c'est rigolo. Et l'amarante a un goût très, je trouve, popcorn, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un goût très toasté qu'on retrouve justement en le faisant. On l'a fait d'abord cuire comme une sorte de bouillie, et ensuite on l'a étalé, on l'a fait sécher au four à environ 150 degrés pendant 15 minutes, et ça nous donne ce côté croquant et presque un peu torréfié.
Et je trouve qu'il y a une finale qui est presque un peu marine, presque un peu
iodée.
Avec ce côté peut-être.
Ça, c'est les huîtres que vous avez mangées avant l'émission.
C'est un côté un peu iodé en finale.
Et dites-moi, Manon Fleury, ça se trouve facilement, l'amarante ?
Ça se trouve aujourd'hui, on en trouve pratiquement dans tous les magasins bio. De manière aussi, de plus en plus de manière locale, comme disait Philippe, on peut le trouver. Moi, j'ai un producteur d'amarante qui est dans le Berry, que j'ai rencontré lors d'une dédicace du livre à Bourges, dans une librairie, la Plume de Sartat. Et on avait organisé une discussion avec eux. Donc on peut trouver aujourd'hui de l'amarante française localement. Donc renseignez-vous sur les producteurs qui sont à côté de chez
c'est
vous.
C'est souvent vendu en vrac
en
d'ailleurs. Dans les...
En
ça,
vrac,
c'est bien aussi.
Ouais, exactement. Mais le problème, c'est qu'en général, on ne sait pas trop quoi faire avec.
Eh bien, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Vous allez nous faire un dessert qui est un chef-d'œuvre de la pâtisserie tout à l'heure. On le dit ou on ne le dit pas ? Allez, on le dit.
Oui.
Un beau gâteau de crêpes Suzette à la façon de Manon Fleury pour régaler les auditeurs d'Europe
1. Non, mais j'en reste,
et Jacques Weber qui sera notre invité. Pour l'instant, c'est l'heure d'écouter notre bruit de cuisine. Nous sommes très joueurs. Vous pouvez gagner un cook expert de Magimix, le fameux robot cuiseur multifonction. Écoutez ce bruit de cuisine. Ah ben, ça ressemble aux crackers. On réécoute parce que c'est dur, là. Ah oui, c'est du végétal. Je l'ai dit la semaine dernière, alors je le redis, mais c'est tout, j'en dirai pas plus. Jouez 39, 21, 50 centimes la minute, ou alors vous laissez vos coordonnées sur europe1.fr.
Europe 1. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Ah, nous revoilà à table avec la chef engagée Manon Fleury qui est venue nous voir avec un très beau livre. Il s'appelle Céréales aux éditions Flammarion. Bah tiens, quelques petits intitulés, comme on dit. Merlan confit à l'huile d'olive, millet et cerise. Potimarron farci au millet et abricot sec. Il y en a pas mal du millet justement, hein, qui est une graine, une céréale qu'on trouve beaucoup en Afrique aussi,
oui.
Manon Fleury.
Ouais, c'est une céréale que je trouve très intéressante aussi parce qu'elle contient peu de gluten. Je trouve qu'il y a ce côté un peu gluant, un peu qui s'agglomère et un côté aussi très léger qui peut être intéressant comme alternative notamment au riz.
Alors c'est vrai que les céréales peuvent intimider parfois parce qu'il y a le trempage déjà qui peut rebuter certains cuisiniers amateurs ou pas.
Qui sont pas très, qui n'arrivent pas trop à anticiper leurs recettes. Oui.
C'est ça.
C'est une question d'organisation en fait. C'est de savoir.
Exactement.
Voilà. Et après c'est aussi se dire que si on voilà. On peut aussi réduire le trempage. Moi, je dis toujours dans le livre, j'explique oui. que c'est idéalement c'est 12 heures, mais ça peut être aussi 2 heures.
Mais en 2 heures, voilà, c'est ce que vous dites souvent.
Voilà. Et
alors, ce que j'aime aussi beaucoup dans votre livre, c'est que vous le dites en préambule, les céréales sont au cœur de notre tradition agricole, mais aussi de notre transition énergétique. Et c'est un bon substitut à la viande parce que les céréales, même certaines comme ça, ou quand on les combine avec des légumineuses, sont un bel apport de protéines végétales.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est de revoir les quantités de protéines animales qu'on va mettre dans l'assiette et d'essayer d'inverser ces proportions. Et je pense que les céréales sont un bon apport en protéines végétales pour changer la diversité et le contenu de notre assiette du futur.
C'est nourrissant.
Et d'aujourd'hui.
Et c'est nourrissant et rassasiant. Et lesquels vous diriez qu'il faut avoir dans son placard alors ?
Ben toutes, moi je pense que je prône vraiment la diversité et je pense que quand on fait toujours la même chose, c'est là où on s'ennuie en fait. Et je pense qu'il faut avoir une ressource, faut avoir du petit épeautre, faut avoir du quinoa, faut avoir et c'est aussi intéressant de les associer entre elles, de les mélanger, et de trouver un truc et des recettes qui changent souvent. C'est pour ça qu'on a fait, j'ai fait autant de recettes qui montrent que on s'ennuie pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme mélange par exemple?
Bah, par exemple, moi je mélange souvent le quinoa et le boulgour ou le quinoa et le sarrasin. Voilà, il y a plein de mélanges, le petit épeautre et le riz justement, qui font voilà, des magnifiques salades du quotidien.
Alors parlez-nous du riz, tiens, Philippe Tonnard, parce que ça reste la céréale la plus consommée par les Français et on cultive et on produit hein, du riz en France, on l'a dit, du côté de la Camargue, bien sûr.
Mais c'est une très ancienne céréale. Elle aurait été importée en France autour du 12e siècle, alors implantée tardivement parce qu'il a fallu des conditions particulières pour faire pousser le riz. Donc, comme vous l'avez dit, c'est en Camargue, majoritairement. On en cultivait alors deux fois plus dans les années 60 par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est de notre faute, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on va dans un rayon d'une grande surface ou dans un rayon d'un magasin qui fait du vrac, on a tendance toujours à prendre les mêmes marques, à pas regarder. Et puis, on laisse tomber le riz de Camargue alors qu'il n'a rien de différent par rapport aux autres.
Il y a du complet, du semi-complet, du rouge,
du raffiné, du rouge. Il est même meilleur parce que d'un point de vue de la culture, on est beaucoup plus strict en France qu'en Asie et il y a beaucoup moins de pesticides qui sont balancés sur les riz français que sur les riz chinois.
Je me souviens d'un reportage avec un riziculteur en Camargue qui lui nettoie ses riziculteurs, enfin ses champs de riz avec des canards.
Le riz des canards, ça s'appelle.
Ça s'appelle le riz des canards, exactement.
Donc vive le riz. Alors dans votre livre, il y a une belle recette aussi qui est rassembleuse, c'est le congee. Hein,
oui.
C'est un plat asiatique.
C'est un plat auquel je me suis intéressée en faisant le livre, en fait, parce que j'avais envie de faire des sortes de bouillies qu'on fait notamment en Asie. Donc il y a une recette de congee dans le livre avec le principe, c'est un riz cuit dans un bouillon. Là, en l'occurrence, c'est une recette de congee cuit dans un bouillon de champignons. Donc on a vraiment ces arômes de champignons hyper intéressants. Et à la fin, on a ce riz qui a lâché tout son amidon et qui vient s'agglomérer et constituer cette espèce de bouillie très réconfortante.
Cuisson longue. Hein,
cuisson longue. Et en fait, j'ai voulu refaire cette recette au perchoir à Ménilmontant lors de notre précédente résidence et j'ai trouvé une technique pour faire ce plat au sein d'un service dans un restaurant, parce qu'en fait le problème avec une bouillie, quand on la fait cuire pendant très longtemps sur le coin du fourneau, à la fin du service elle est beaucoup trop cuite. Donc on a fait une espèce de crème de riz en mixant du riz trop cuit qui vient nous aider à faire une liaison avec du riz, donc on mélange du riz et cette crème de riz, et ça nous donne un riz très crémeux, et c'est devenu notre plat phare qu'on n'arrive pas à enlever.
Oui, et ça c'est facile à faire en plus. Hein. Je veux dire, une cuisson longue, même si on a un bouillon moins élaboré
tout
que le vôtre, on peut se faire plaisir.
Ouais.
Il y a le petit épeautre aussi, hein, qui revient en force, qu'on cultive en Haute-Provence, qu'on appelait aussi le blé des Gaulois. Moi, j'aime bien le petit épeautre parce qu'il y a ce petit côté rustique, je trouve, d'une céréale ancienne, quoi.
Ouais, il y a un côté très noisette, croquant sous la dent, et on peut, c'est très facile à agrémenter. Tout à l'heure, on donnait l'exemple d'un risotto. Souvent, on fait souvent des risottos de champignons aussi avec le petit épeautre. Mais moi, j'adore les salades de petit épeautre. Il suffit d'avoir, en général, une vinaigrette. Moi, j'aime bien les sauces pour enrober les céréales, pour apporter ce côté gourmand, pour éviter ce côté trop sec.
Oui, bah oui.
Et donc, on peut multiplier les recettes à base de petit épeautre, en servant aussi de restes de petit épeautre qu'on aurait cuit pour faire par exemple un risotto et le récupérer le lendemain pour faire une salade.
Trempage ou pas trempage pour le
petit épeautre ? Trempage pour le petit épeautre.
Trempage. Là, on rentre dans la période des légumes feuilles, des légumes verts, avec une belle salade de petit épeautre, comme vous dites, avec votre belle sauce vinaigrette. On pourrait mettre des épinards, par exemple.
Des asperges.
Des asperges, du bleu.
Dieu, les asperges.
Hein, un beau bleu avec les épinards. Voilà.
Moi, j'en mettrais pas, parce que j'aime pas trop le fromage.
Mais non, mais alors les asperges, on peut les mettre crues aussi. Hein,
en lamelles.
Et même les blanches, hein, quand elles sont taillées très finement, bien fraîches, les blanches. Philippe Toinard.
Moi, j'avais une question technique pour Manon. Est-ce qu'on peut cuire nos céréales avant et combien de temps ça se garde avant de les cuisiner pour de vrai ?
Alors,
si je cuis de l'orge, par exemple,
oui.
Je peux le conserver combien de temps dans mon réfrigérateur ?
Moi, je dirais 3 jours, comme on le fait en général dans une cuisine. C'est-à-dire qu'on cuit une dorée et en général, on peut la garder pendant 3 jours. Et je pense que voilà, si elle n'est pas assaisonnée et c'est juste cuit, mais je dirais même un peu plus.
C'est ça.
Donc, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut s'organiser, cuire à l'avance et minute, notamment quand on veut faire un petit risotto minute à la maison, en liant. Moi, j'adore lier aussi avec des purées de légumes. Typiquement, si on a du petit épeautre, on peut lier avec une purée verte d'épinards ou de champignons ou de carottes.
Oui, parce que le petit épeautre, contrairement au lit, au riz, ne se lie pas lui-même.
Exactement. Il n'y a pas justement ce côté gluant et il se tient, donc c'est l'avantage.
Et en plus, vous le dites dans votre livre, on peut repasser à la poêle quand c'est cuit à l'avance aussi une céréale pour les griller, par exemple.
Oui, il y a ce côté souvent torréfié, ces arômes de miel qui peuvent ressortir notamment sur le sarrasin décortiqué, qu'on peut utiliser, donc cuire et utiliser et manger comme une poêlée, en gros. On peut le cuire d'avance, le refroidir et ensuite le faire revenir à la poêle avec, je pense, un petit beurre noisette pour apporter de la gourmandise. Et là, il y a des arômes de miel en général qui se dégagent, magnifiques.
Et ben, vous l'avez entendu, chers auditeurs d'Europe 1, la cuisine de la céréale, c'est capital. Merci Manon Fleury.
Merci.
Votre très beau livre chez Flammarion, les recettes d'une chef engagée. Et vous restez avec nous parce que vous allez nous régaler dans un instant avec le grand Jacques Weber qui est notre invité. Et vous allez nous faire un gâteau de crêpes Suzette. Et là encore, vous allez jouer avec les céréales pour les farines utilisées. Hein ?
Oui.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Et ils sont là, mes bons vivants. Olivier Pouls de la Revue du Vin de France, que vous retrouvez aussi du lundi au vendredi entre 16h et 18h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern sur Europe 1. Et puis Philippe Toinard, notre journaliste gastronomique qui n'arrête pas d'écrire des livres que vous pouvez trouver partout. Donc des livres de chef en ce moment, vous nous disiez aussi la dernière fois, Philippe.
Chef pâtissier et un peu de rugby au passage.
Ah oui, là, et Yves Candebord sera dans l'histoire avec le 15 de France. On en reparlera ici, vous pensez bien. Alors avec l'inflation, la précarité alimentaire, vous l'avez vu, est devenue un sujet qui touche de plus en plus de monde. Eh bien, on a envie de mettre à propos en avant une belle démarche solidaire. Ça s'appelle le Réfectorio. Olivier, un petit mot sur ce Réfectorio qui se situe sous l'église de la Madeleine à Paris.
Et qui est né en mars 2018 sous l'impulsion d'un grand chef italien, Massimo Bottura. Il est destiné exclusivement à des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Le principe, des menus préparés avec des invendus, donnés en général par la grande distribution et par des grands chefs. Les menus sont gratuits pour les invités.
Alors c'est bien que vous disiez ce mot-là, invité, Philippe Toinard. Et on y tient, on ne parle pas de bénéficiaire, mais on parle d'invité. C'est très important.
C'est ça. On s'attable, on doit être invité, comme vous le dites. Alors c'est soit par une association, soit par une structure d'aide sociale. Le Réfectorio travaille avec 360 structures partenaires. Donc il y en a plein que vous connaissez, les maraudes, le SAMU social, les centres d'hébergement, les hôpitaux qui réservent des places. Et vous êtes invité.
Voilà, on est invité. Et bien justement, Julien Amat de la rédaction s'est rendu dans les cuisines du Réfectorio au moment du coup de feu avec ce soir-là le chef Boris Campanella qui est le chef de l'hôtel Crillon, le palace qui est juste à côté de la Madeleine. Ambiance au Réfectorio.
Alors j'ai 11 plats dont 2 végétariens. La Banque Alimentaire nous contacte 2 fois par semaine. On n'achète absolument rien. Et donc lundi, ils m'ont appelé. Ils avaient déjà préparé un sac pour nous. On avait des pommes de terre, pas mal de légumes anciens.
Bah, ça ne doit pas se vendre si bien que ça dans les grandes surfaces qui donnent à la banque alimentaire.
Et bien là, on a la volaille qu'on va arroser généreusement.
Ah.
On a envie de le manger, là, non?
C'est la première fois que vous cuisinez ici?
Non, moi je viens depuis 5 ans ici. Puis je suis à côté, je suis à l'hôtel de Crillon, donc c'est bien pour ça qu'il faut le faire encore plus. Hein, c'est pas parce qu'on travaille dans un palace qu'on peut pas être conscient de ce qui se passe à côté de nous, quoi.
Il y a quelque chose à faire. On a des brigades de cuisiniers qui sont prêts à donner de leur temps en équipe, des chefs qui ont des talents, et on a des industries agroalimentaires qui surproduisent. Ben, on va tout mettre ça dans un seul lieu et on va faire à manger et créer un moment de fête pour des personnes en situation de précarité.
Ils sont tous sociables, tous les bénévoles sont très gentils.
C'est un voyage. C'est un voyage pendant 1h30 ou 2h.
C'est ce qui m'a bluffé, c'est la pomme. À vue d'œil, on se dit que c'est de l'oignon caramélisé, mais au goût, on sait que c'est de la pomme.
C'est la première fois que vous venez ici?
C'est la première fois. J'aimerais bien y revenir, vraiment. Les mots me manquent, mais il y a eu de l'amour, vraiment.
Bonjour mesdames, bienvenue dans cette
réunion. Le goût de l'amour, eh bien voilà, mais c'est vrai que c'est insupportable toujours. Ce décalage entre la surconsommation, le gâchis, une offre alimentaire excédentaire parfois, et puis des gens qui crèvent de faim, quoi. Donc c'est une vraie belle initiative, ça s'appelle le Refettorio. Et il y a de nombreux grands chefs qui se succèdent au fourneau, Olivier.
Alors il y a une chef attitrée, c'est Blandine Paris, et puis il y a des chefs qui sont très régulièrement invités. Alors on peut citer Alexandre Couillon, Jean Imbert, Michel et Sébastien Bras, Michel Trois-Gros, Blanche Loiseau par exemple, ou encore Béatrice Gonzalez. Voilà que des grands cadors de la cuisine française qui viennent donner un peu de leur temps et de plaisir et de bonheur et d'amour, on l'a entendu.
Et pour offrir de la dignité aussi, Philippe Toinard.
Oui, parce que je pense que pour une grande partie de ces gens, c'est sans doute la première fois qu'ils vont au restaurant, enfin l'équivalent d'un restaurant. Et en fait, on recrée pour eux toutes les vertus de ce qu'est une table, c'est-à-dire de la dignité, de la socialisation, de l'amour, comme l'a dit Olivier. On recrée vraiment l'ambiance. Il y a des tables avec des nappes blanches. On a un véritable restaurant qui est sous une église, dans un quartier luxueux. Donc c'est aussi un peu ce côté paradoxal dans une oasis de charité au milieu d'un quartier luxueux. Et je trouve ça beau, parce que même les témoignages qu'on entendait, on sentait l'émotion dans les invités.
Parce qu'il y a un vrai rapport au goût et à la diversité aussi des saveurs. Un exemple de menu, tiens, pour les auditeurs d'Europe 1.
Eh bien, le chef qui parlait tout à l'heure, Boris Campanella, il a fait une soupe de légumes racines avec des pommes rôties. Ensuite, il a fait un poulet rôti avec des pommes grenailles à l'ail. Et il a terminé par des oranges, des poires confites avec crème et vinaigrette aux herbes. Et il faut souligner que les chefs, évidemment, sont bénévoles.
Et voilà, donc voilà le Refettorio et bravo pour cette belle initiative. Allez, c'est l'heure de jouer, nos amis, avec notre bruit de cuisine sur Europe 1. Vous gagnez aujourd'hui un Cook Expert. Vous savez, c'est ce robot cuiseur multifonction de Magimix. Il vous aide à réaliser des plats sains et gourmands 100% fait maison. Le Cook Expert de Magimix est garanti 30 ans. Vous aurez plus de 2000 recettes avec. Et nous accueillons, eh bien, pour jouer avec nous, notre première auditrice ce samedi, c'est Isabelle. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Comment ça va, Isabelle ?
Ça va plutôt bien, 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 et vous ?
Très très bien, on vous entend. Vous nous appelez d'où ?
Alors de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.
Ah, et qu'est-ce qu'on mange de beau ce samedi midi à Saint-Nazaire ?
Alors pareil, on va rester dans un petit peu dans l'état d'esprit de ce que vous décriviez, le restaurant, avec beaucoup de légumes. Donc à midi, ça sera un crumble potimarron boulgour lentilles vertes.
Ah bah oui.
Ah bah dis donc, vous êtes dans le thème du jour, avec des céréales, bravo.
Exactement, vous voyez, comme quoi, c'est assez, assez fréquent chez moi, les céréales.
Vous avez bien raison, ça permet de se faire du bien et sans casser trop la tirelire en plus.
Alors, c'est ça, absolument.
On écoute le bruit de cuisine, Isabelle.
Oui, je vais écouter.
Alors il est court, hein. C'est pour ça que je vous ai mis un peu sur la piste samedi dernier en vous disant que c'était du végétal.
C'est ça, oui.
Un végétal de saison. Allez, j'arrête. Et c'est pas l'asperge.
J'avais pensé alors des fruits à coque, un style des noisettes qu'on verse dans un récipient et qu'on casse ensuite.
Ah non non, je pense on est sur du fruit sec là. Non non, je parle de végétal moi.
De légumes. Ouais. Alors un légume qu'on casse après avec. Des trognons qu'on casse sans doute.
Ouais. Mais oui, mais c'est vrai que vous avez dit fruits secs. Je suis obligé d'enregistrer votre première réponse. C'est pas
oui, je
ça. Ouais. Mais vous n'avez pas tout perdu. Vous n'avez pas tout perdu, Isabelle. Regrettez pas. On vous envoie Céréales, le beau livre de Manon Fleury qui est avec nous aujourd'hui.
Ah bah très bien.
Beau livre paru chez Flammarion. Vous qui aimez cuisiner les céréales, vous allez vous régaler. Vous allez entendre.
Très bien.
Merci de votre fidélité.
Merci beaucoup à vous. Une bonne fin de journée à vous.
Pareil. Au revoir. Au revoir, Isabelle.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité, acteur et metteur en scène. Au théâtre ou au cinéma, il était le comte de Monte Cristo, Don Juan, Cyrano de Bergerac ou encore le Roi Lear. Ses rôles en imposent hein, autant que sa stature. La dernière fois qu'il est venu ici, il est reparti avec un camembert dans la poche. Autant vous dire qu'il a son rond de serviette à cette table, c'est Jacques Weber, notre invité.
Bonjour, bonjour Jacques. Ça va? Oui, oui. Heureux de vous retrouver.
Ah bah pareil.
J'espère que vous avez enlevé le camembert de la poche
oui,
depuis.
Il a été consommé et il a eu des petits frères. Oui, tout à fait.
Vous êtes venu, on va en parler, nous voir avec un très beau livre. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, paru aux éditions L'Observatoire, inspiré d'une belle phrase de Louis Chélide, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps.
C'est vrai,
d'ailleurs.
Il est merveilleux. Sa chanson, c'est sa chanson qui m'a donné l'idée de ce livre.
Alors la chanson, c'est on ne dit jamais assez aux gens
qu'on aime, de peur de les gêner, qu'on les aime.
C'est ça. Mais on va en parler parce qu'on croise des gens connus et inconnus aussi dans votre livre.
Bah, c'est ça qui est bien, c'est ce mélange-là.
Absolument. Avec de belles déclarations. Qu'est-ce que vous faites habituellement, tiens, Jacques Weber, le samedi matin, comme ça, sur les coups de midi moins le quart?
Ben, le marché, mais pas à midi moins le quart. Moi, je fais tôt parce qu'à midi moins le quart, il y a tôt. Comme c'est, je suis sur Rénois, c'est quand même un peu résidentiel, donc les gens se lèvent tard. Moi, je préfère y aller tôt. Et alors, j'ai mes copains à la poissonnerie, à la boucherie.
Il y a les riants, il y a les beaux maraîchers riants, Élise et Thierry Riant.
Et puis, vous connaissez très bien.
Votre poissonnière, c'est Muriel ?
Oui, c'est Mumu. J'adore Mumu. Ah, tu connais Mumu ?
Oui.
Oh, bah, elle est géniale, Mumu. Oui, c'est formidable. Ah, oui, vraiment, j'adore ça. Parler dans. Le marché est encore un des rares endroits où tout se mélange et on peut se parler
comme
avec
le
les
bistrot.
Gens et on prend le temps comme le bistrot.
Exactement. On va parler du bistrot avec vous.
Le vrai bistrot, pas les bistrots à la mort moelleux, les Burger King ou les je sais pas quoi.
Ah
les
mais non,
ah mais ça c'est pas des bistrots. Ça c'est pas des bistrots, Jacques Weber. Quel est votre goût de la semaine, Jacques?
Alors mon goût de la semaine, ça va te surprendre beaucoup, mais comme j'étais tout seul à me faire à manger, parce que ma femme était un cordon bleu, je me suis fait, il y avait un reste de riz. Bon, j'ai mis de l'huile piquante avec du piment, c'est de l'huile piquante, et dans ça j'ai rajouté des sardines pimenté.
Oh là, c'est beau. Ça, vous aimez la puissance.
Moi j'aime ça. Moi, ouais. Et j'ai un peu écrasé mes sardines, carrément deux boîtes.
Il faut être généreux.
Bah, oui. Dans le riz, j'ai trouvé ça absolument magnifique.
Et vous êtes dans la thématique. On était avec Manon Fleury qui cuisine les céréales et on parlait de donner une deuxième vie au riz en faisant une salade ou en le grillant, par exemple, à la poêle. Bravo. Alors, je le disais, Jacques Weber, vous venez de publier un très beau livre, hein, « On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime ». Dans ce livre, vous revenez avec beaucoup de sensibilité et d'humour hein, sur vos souvenirs d'enfance, mais aussi sur des moments et des personnes. Tout était dans la tête ou vous avez pris des notes au fur et à mesure de votre vie ?
Très honnêtement, je crois que plus que tout était dans ma tête et tout m'est revenu dans le désordre le plus absolu, parce qu'il y a bien évidemment des gens qui manquent. Il y a un nombre considérable de gens que j'aime, mais je trouve que c'est tellement plus important de parler de ce que l'on aime, de ce qui nous traverse joyeusement le corps, que le contraire. C'est formidable, c'est ce qui fait la vie, c'est l'amour, quoi, l'amour ou la fraternité. C'est ce qui a été le moteur de ce livre. Et j'ai dit, vas-y, dans le désordre, ce qui te vient. Et quand quelque chose me venait, je me mettais à l'écrire. Alors, bien évidemment, les animaux, un cheval que j'ai aimé sur un tournage.
Votre chien Spartacus.
Le fameux Spartacus qui me fait parler aussi d'un héros de l'histoire romaine, Spartacus. Et tout comme ça, par ricochet, fréquente des gens aussi importants que Signoret ou Depardieu ou Adjani. Et puis, d'un seul coup, des gens que personne ne connaît. Ouais. C'est le temps d'une nuit. Il y a d'autres histoires qui sont le temps d'un an ou le temps d'un tournage. Voilà.
Alors Jacques Weber, vous êtes quelqu'un d'entier sur scène et dans la vie, comme en témoigne votre livre. Et bien Philippe Toinard aussi est un chroniqueur, journaliste gastronomique entier. Et à ce titre, vous avez une revendication à partager avec nous et on parlera d'un beau vin après avec vous, Olivier Pouls.
Et là, je ne peux pas en parler, moi, parce que...
Vous n'avez pas le droit de boire, hein. C'est votre femme qui nous a dit pas de boire, vous êtes à l'eau, là. Hein. Philippe.
Alors, ça ne vous a pas échappé, lundi, c'est le 20 mars, et le 20 mars, c'est le jour du printemps. Mais c'est aussi la journée internationale sans viande, qui est calée entre la journée internationale du canari et la journée internationale du rangement de bureau.
C'est vrai.
Et je vous promets que tout ça est authentique. Alors du coup, pour fêter le printemps, pas de brochettes de bœuf au barbecue, pas d'épigramme d'agneau snacké sur la plancha comme Olivier l'aime, pas de poulet rôti, pas de terrine de lapin, rien de tout ça.
Et alors depuis quand cette journée internationale sans viande existe-t-elle ?
Elle est apparue pour la première fois en 1985. C'est porté par une association américaine qui s'appelle Farm, qui milite pour une alimentation sans viande et se propose de lutter pour le respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration l'amélioration de la santé humaine.
Oui, au ton de votre voix, je sens que cette journée sans viande vous chagrine, Philippe Toinard.
Non, alors je suis d'accord, il est important de sensibiliser tout le monde et on sait que diminuer la production et la consommation de viande permettrait de réduire l'empreinte environnementale de l'alimentation, ça permet de diminuer les effets des gaz à effet de serre, ça permet d'économiser les ressources en eau, sauf que dans les faits, il y a la sensibilisation au niveau mondial donc, et la réalité sur le terrain. Je suis donc allé jeter un œil au menu de mes enfants surénois pour le 20 mars. Alors, pour les CM2, journée internationale sans viande, ce sera donc haché de bœuf, sauce tomate. Pour les quatrièmes d'un premier collège, pour la journée internationale sans viande, c'est escalope de porc, sauce bobotie. Et dans le second collège, c'est sauté de porc au jus.
Ah oui, donc,
vous avez remarqué, au niveau de la sensibilisation des enfants, on repassera. Oui. Et au niveau de l'implication des adultes qui conçoivent ces menus, ça fait donc 38 ans qu'ils n'ont jamais entendu parler de la journée sans viande.
Bon, alors si ça ne fonctionne pas complètement dans les cantines, ça n'empêche qu'on peut tous faire un effort, parce qu'on le sait, il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité quand même.
On va commencer par manger des céréales, comme nous invite à le faire notre chef du jour, Manon Fleury. On va aussi manger des légumineuses, ou alors on va manger des macarons, parce que le 20 mars, c'est aussi la journée internationale du macaron.
Et le poisson, c'est une belle alternative quand même, le poisson, un bon poisson de pêche locale et durable.
Oui, alors on va se dire que je vais remplacer la viande par du poisson, c'est le premier réflexe. Ouais. Sauf que depuis peu, on nous alerte sur l'importance de réduire notre consommation de poisson, ou tout du moins de s'informer sur les espèces en voie de disparition ou d'extinction. Alors, un exemple parmi tant d'autres, pendant des années, on nous a conseillé de préserver le maquereau en reportant nos achats sur le chinchard, qui est son cousin, moins cher et tout aussi délicieux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, le chinchard est surpêché et dégradé. Peut-être faut-il que la journée internationale sans viande soit rebaptisée journée internationale sans viande et sans poisson.
Bon, sans chinchard.
Mangeons un petit peu de tout, en fait. Voilà, c'est ça l'arrêt. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Weber ?
Je crois que ce qui est très important dans notre siècle et dans les dernières années, c'est la reconnaissance du monde animal, de son intelligence, de son autonomie, de tout ça. Bon, c'est très, très important de redonner à la nature sa vraie place et par ce fait même de nous replacer, nous, humblement, à l'intérieur de la nature. Mais méfions-nous aussi des excès trop rapides du style « on arrête complètement de manger de la viande ». Moi, je sais très honnêtement que je suis ce qu'on appelle un viandard, c'est-à-dire que j'aime manger la viande, donc ça me pose beaucoup de problèmes entre « oui, il y a une réelle nécessité à re-réfléchir complètement sur notre mode d'existence », mais en même temps, c'est vrai que si on me prive de viande du jour au lendemain, je vais...
Je pense que parmi les aliments, c'est celui qui peut procurer le plus d'émotions. Il y a de très bons poissons, il y a de très bonnes céréales, mais je pense que l'émotion d'une très grande viande, c'est inégalable.
Ah, c'est vrai. Et bien maintenant, attendez, le poisson, moi je suis très triste parce qu'il y avait un poisson que je mangeais tout le temps qui était l'empereur. On ne trouve, c'est fini.
On n'en trouve plus, oui.
Ah ben, il n'existe plus.
Mais oui, c'est fini, il a disparu.
C'était un poisson de grand fond et c'était une merveille absolue. Et ben, tu ne le trouves plus du tout. C'est vraiment inquiétant.
Allez, on envoie le bar à la 2, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une fribre.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe. Voilà.
Europe 1.
Hop, hop, assaisonnement, hop, on enlève.
11h30, la table des bons vivants.
Allez!
Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous arrivez sur Europe 1 et merci d'être là si vous êtes des nôtres depuis 11h. Jacques Weber, le grand Jacques Weber est notre invité. Il est venu nous voir avec un très beau livre, vraiment qui fait du bien. C'est une caresse ce livre. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Et dans ce livre, Jacques Weber, vous revenez sur votre rôle formidable dans la série En Thérapie. Vous jouiez Alain Abgral, un PDG malheureux. Après le suicide d'une de ses salariées et un lynchage médiatique, sa carapace se fissure. Je suis, comme de nombreux auditeurs d'Europe 1, un fan absolu de cette série. Vous m'avez bouleversé avec ce rôle. Non mais franchement, j'étais en communion totale avec vous. Il y avait un lâcher-prise dans votre jeu. On se croyait vraiment en thérapie. Comment vous êtes parvenu à ce résultat ?
Je ne sais pas trop, mais ce qui est très important, c'est vous savez, le fait d'être bien ou moins bien, c'est toujours la conjugaison de plusieurs éléments. C'est comme les accidents d'avion. C'est jamais le fait d'une chose, c'est le fait de mille paramètres. Mais là, les paramètres sont très importants. Un, l'écriture. L'écriture, c'est fait par des gens qui savent de quoi ils parlent. Je ne sais pas combien ils étaient là-dessus, mais sur le plan de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la psychologie, c'était extraordinairement, magnifiquement foutu. Deux, une réplique merveilleuse qui était
Fabrice Pierrot,
qui était absolument Frédéric Pierrot, qui était absolument formidable dans le psychanalyste. Il y avait un rapport entre nous très direct, très... très généreux et surtout extrêmement humain, ce qui n'est pas toujours le cas chez les psychanalystes. Et puis, peut-être et surtout, la rencontre avec la metteur en scène, Emmanuel Bercot, qui est un monument de, d'humanité, de tendresse, d'intelligence et surtout de discrétion. Et de pudeur. Et c'est vrai que lorsque vous avez à jouer des choses aussi c'est très, très, c'était difficile pour moi parce que ça faisait écho à certaines histoires de ma vie privée. Et il y avait des moments compliqués pour moi pour jouer ça. En même temps, ça m'a sans doute aidé. C'est là où notre métier a une ironie absolument féroce, puisque on peut être très triste d'un événement tragique dans votre existence et on s'en sert dans notre métier. On est presque heureux de pouvoir s'en servir. En fait, on n'est pas heureux, mais on est soulagé de pouvoir l'extérioriser ailleurs qu'en soi-même.
Alors, à seulement 30 ans, Jacques Weber, vous êtes devenu directeur du Centre Dramatique National de Lyon, puis à 37 ans, directeur du Théâtre de Nice. Vous avez monté Spartacus à Lyon pour gagner le cœur des Lyonnais. Vous avez organisé avant la première un très grand festin.
Ça, j'étais sûr que vous le repériez.
En faisant appel à Paul Bocuse.
Mais, oui hein
mais c'est extraordinaire. Hein
racontez.
Je voulais faire une pub un peu originale. Alors, bon, c'était donc Spartacus, mais je me dis, merde, il faut faire un... vous savez qu'il y a des plus beaux musées au monde, le musée gallo-romain à Lyon. Donc je dis, et si on demandait à Bocuse? Parce qu'il était suffisamment génial et dingo, il était génial, le père Bocuse.
Il adorait rire et il adorait et réunir donc, autour de la table.
On y a été, on a dit, ben, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire un grand repas, un festin gallo-romain? Il dit, oh, formidable! Et dans le musée gallo-romain, voilà Tipa, que vous avez Bocuse, en tenue, en toche romaine, avec les sandales, les sangliers qui tournaient sur une broche, enflammés, les danseuses à moitié à poil, il y avait le maire qui vrillait complètement, le monsieur le maire qui savait plus où mettre ses yeux, et c'était il avait fait, mais Bocuse était génial, il avait fait des pains romains et il y avait que le vin qui n'était pas romain, qui était meilleur que le vin romain.
Oui, mais vous
que
savez
le vin
que
de l'époque romaine, c'était vraiment
juste
la
au sud de Lyon, il y avait le premier vignoble planté par les Romains, le vignoble du Rhône, le vignoble de Sessuel, qui était appelé le vignoble de Vienne, juste à la sortie de Lyon, et qu'un certain nombre de vignerons, depuis quelques années, sont en train de faire revivre.
Ah, ben bah bravo, ouais, mais en tout cas, c'est un souvenir incroyable. Quoi. Mais c'est ça que j'adore chez des gens aussi merveilleux, c'est comme mon ami Marc Vera, c'est des grands metteurs en scène de la victoire.
Eh ben, je vous présente une grande metteuse en scène de la victoire. C'est la chef Manon Fleury, qui est actuellement aux manettes du restaurant Le Perchoir Doménil au Chalet des Îles du Bois de Vincennes. Elle était avec nous au début de l'émission.
Le Chalet des Îles où il faut traverser.
Oui.
Ah oui.
Voilà.
Oui,
et on fait une belle ripaille avec de belles céréales dans l'assiette, entre autres. Et je crois, Manon Fleury, que vous avez un souvenir d'enfance commun avec Jacques Weber. Ce sont les crêpes. Hein.
Oui, c'est les crêpes. Ce sont les crêpes. Moi, j'en mangeais pratiquement tous les dimanches soirs à la maison. Et c'était les enfants qui cuisinaient. Et je pense qu'il y avait un truc où on s'est approprié cette recette parce que nos parents nous laissaient faire. Et c'était un moment de réconfort incroyable. Et je pense que c'est vachement resté.
Et vous, Jacques Weber, les crêpes ?
C'était l'odeur, c'était ma maman qui faisait les crêpes. Quand elle faisait ça, pour nous, c'était... Parce qu'on n'était pas dans une famille extrêmement riche. Et quand je rentrais de l'école et que d'un seul coup, je sentais l'odeur des crêpes, c'était un bonheur indicible. Et elle faisait des crêpes. Alors, il y avait les crêpes au pralin et il y avait les crêpes avec des zestes d'orange et de citron. Et puis, la fameuse crêpe au rhum, mais à peine du rhum, à peine saupoudrée d'un peu de sucre.
Et alors, goûtez, s'il vous plaît, Jacques Weber, ce gâteau de crêpes Suzette fait pour vous.
C'est pas vrai.
Et je pense qu'il peut vous rappeler des souvenirs. Vous parliez de...
Ça se mange un peu plus chaud, normalement, mais bon, c'est les mêmes.
Oui, il a mis la température ambiante, ouais, là, donc c'est tout à fait convenable. Et ça devrait peut-être correspondre à ce zeste d'agrumes que votre maman mettait dans ses crêpes.
Oui, hein. Bien sûr.
Il y a l'agrumes.
Ah oui. Comment vous faites ça? Alors attention, parce que là, moi, ce que j'aime beaucoup, encore une fois avec vous, Manon Fleury, c'est qu'il y a un petit goût rustique dans ces gâteaux de crêpes, parce que vous avez utilisé des farines qui ne sont pas habituelles.
Eh ben, bravo, c'est vrai, ça se sent.
Ça se sent, hein.
Il y a un mélange de farines, temps pour temps, farine de sarrasin, farine de riz, qui apporte de la légèreté, et farine de blé. T55.
Oui, on sent la crêpe sarrasin aussi, beaucoup, on sent le sarrasin.
Et on voulait casser le côté un peu lourd parfois de la crêpe sarrasin, qui est plutôt, la farine de sarrasin est plutôt appropriée à la galette de sarrasin. Et là, comme on est dans une version sucrée, on a balancé ce côté très humide et parfois un petit peu roboratif du sarrasin avec la farine de riz.
Qu'est-ce que c'est bon ? Du lait, des œufs ?
Du lait, des œufs et un peu de rhum dedans.
Ah.
Un peu de rhum dans l'appareil. Et ensuite, donc on vient faire des couches. Donc on, on fait des couches avec en général 15 crêpes. Et entre chaque couche, on vient tartiner une marmelade d'agrumes.
Mmh. Ah, bah voilà, c'est pour ça que c'est bon.
Je cours, que c'est au, bois de Vincennes, je cours au bois de Vincennes, je prends la barque, je rame, je voilà. cours.
Et il y a un temps de repos pour cette pâte à crêpes ?
Il y a au moins une heure.
Ah oui, quand même, hein, c'est
et
ça.
Et au mieux, une nuit.
Oui, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que ce ne soit pas trop sec.
Oui.
Mais trop compact. Et là, on sent vraiment qu'entre chaque couche de crêpe,
ouais,
il y a du moelleux, ça respire, il y a un côté aérien.
Ouais, et le danger du gâteau de crêpe, c'est que ce soit un peu fade. Et donc, du coup, on a contrebalancé ce côté un peu fade avec cette marmelade d'agrumes qui vient apporter un peu d'amertume et qui balance le côté très sucré du caramel.
Et la rusticité, effectivement, des farines utilisées. Manon Fleury, on peut déguster ce genre de gâteau au perchoir d'Auménil.
Hein, mais pour rappeler aux gens. Oui. Que pour déguster tout ce que vous dites, pour sentir tout ce que vous dites, il faut bouffer
souvent,
lentement.
Oui, oh là là, vous avez raison.
Non, mais c'est vrai, parce que là, je me rends compte qu'au début, je me suis précipité comme le morphal que je suis. Mais là, en mangeant lentement,
il faut mâcher.
Il y a plusieurs choses qui se mélangent, c'est très important.
De prendre son temps.
Oui, sinon, ça ne sert à rien de faire des belles choses comme ça.
Nous sommes d'accord déjà que la cuisine est un art éphémère. Et on pourra aller goûter votre cuisine bientôt dans une nouvelle adresse parisienne qui sera la vôtre, Manon Fleury aussi.
Enfin. Hein,
parce que là, vous êtes en résidence. Enfin, comme vous dites.
Et je voulais accorder avec Soleil d'Arche, qui est une cuvée de Sauternes du château d'Arche, un petit peu plus légère que ce qu'ils font pour leur grande cuvée. C'est un Sauternes élégant, pas trop lourd, avec justement ces notes d'agrumes et d'orange confite. Donc là, il y a quand même une rencontre qui est plutôt sympathique.
C'est l'heure d'accueillir notre deuxième auditrice pour tenter de gagner un cook expert de Magimix, vous savez, le fameux robot cuiseur multifonction. Ah. Et nous sommes avec France au téléphone. Bonjour France.
Bonjour Laurent.
Comment allez-vous ? Vous nous appelez d'où France ?
Ah ben moi je vous appelle de Montlhéry, dans l'Essonne.
Eh bien, vous êtes chez vous, à notre table, avec Jacques Weber, qui se régale avec un bug.
Bonjour, France.
Je vous écoutais, là.
Eh bien, on écoute le bruit de cuisine, tiens,
avec
France.
Avec toutes ses saveurs. Merci.
Du végétal.
La cracotte.
Ah, une cracotte. Non, mais c'est le bruit de la cracotte, c'est pas ça.
Non, du persil. De la cannelle.
Du persil, de la cannelle, c'est pas ça, mais c'était bien tenté. Merci France d'avoir joué avec nous. On vous envoie un joli livre de la rédaction pour vous remercier de votre fidélité.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être à table avec nous jusqu'à midi et demi avec Jacques Weber qui est venu nous voir avec son très beau livre « On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime » aux éditions de l'Observatoire. Et puis, vous serez à la Scala aussi, Jacques Weber, du 11 avril au 30 avril avec Weber à Vif à la Scala.
Oui, et avec deux musiciens magnifiques, Pascal Conté à l'accordéon, qui est célèbre dans le monde entier, et puis un rocker, Greg Slapp,
l'harmoniciste de Johnny.
De Johnny, que j'avais découvert en allant voir Johnny à Bercy.
Une légende.
Et c'est extraordinaire ce que peut faire ce type. Et ils improvisent, ces deux musiciens qui sont d'écoles très différentes. L'un est plus musique contemporaine, musique classique, et l'autre est très rocker. Et on est ensemble, les trois, et concertant entre nous trois. Et c'est magnifique. Moi, je dis des textes contemporains, classiques, drôles, pas drôles, moins drôles. Et eux jouent, m'accompagnent, quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, et ils improvisent tous les soirs, et tous les soirs, c'est absolument magnifique ce qu'ils font.
Du 11 avril au 30 avril à la Scala,
voilà,
à Paris.
Exactement. Et après, on le jouera au mois de juillet, pendant un mois, à la Scala d'Avignon, qui est le même directeur.
Vos débuts avec votre troupe de théâtre, vous les racontez aussi dans ce livre.
Grand amour de ma vie, où j'ai fait Paris-Marseille en Vélo Soleil, ça, Annette.
Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que ça vous amène à rencontrer une femme très importante de votre vie, à l'endroit même où a été tournée la femme du boulanger.
Oui, mais tout était inouï dans cette histoire. D'abord, la beauté de cette femme, le genou comme ça fléchi sur la margelle d'un petit puits. Enfin, c'était quelque chose... quand j'y pense, ça m'émeut encore. C'était l'apparition. Et elle était... Ça fait bizarre, elle était patronne de la pizza. Bon, ça fait drôle, patronne de la pizza. Mais seulement, la pizza était installée là, dans un petit restaurant où il y avait le four, où... il y avait l'immense Rému qui faisait pomponnette, elle est revenue, la femme du boulanger. Donc vous vous rendez compte déjà le truc. En plus, le Castelet avec les ruines du château, le vent qui souffle, le bruit des grillons le midi, etc. C'était le parfait décor pour un amour magnifique. Ça a été le très grand amour qui vraiment a bouleversé ma jeunesse. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai dit, je vais faire John Wayne. Je vais faire... voilà. Et j'ai pris le vélo Solex comme un cheval et j'ai fait Paris-Marseille en vélo Solex.
Ça, c'est...
ça des rares, hein, quand même, à le faire.
Ça, c'est... Mais ça, c'est... Mais oui, mais en fait, t'as l'air d'un con parce que t'as tellement des crampes dans les...
Puis il faut charger rapidement parce que
quand tu arrives à terre, tu es brave, mais vrai, j'étais plus bon à rien faire. Voilà.
Alors, vous n'allez pas nous parler de la Solexine, hein, qui est le mélange qui permettait de faire rouler.
Ah, la Solexine, je me souviens de ça, c'était merveilleux.
Mais vous nous invitez ce midi, Olivier, à boire un verre et on pousse la porte d'un bistrot bien de chez nous.
Oui, parce que je pense, mon cher Jacques, que vous aimez les bistrots.
Ah,
comme
bah,
nous
moi,
tous.
Vous me donnez les adresses, oui. Ouais.
Bah alors, on va quand même pas se mentir, c'est vrai que vin de qualité et bistrot n'ont pas toujours fait bon ménage.
Ah non.
Bah lorsqu'on évoque ce lieu populaire, convivial et animé, on pense davantage à un blanc acide et revêche ou à un rouge un peu rustique à la finale rugueuse, tidré en général tout droit d'un cubi planqué sous le comptoir. Plutôt qu'à un grand cru de Bordeaux ou une côte rôtie, crois, cher
bon favori, oui,
à votre cœur.
Bravo, oui, oui.
Alors, l'étymologie du nom bistrot remonte à 1917, lorsque les soldats russes exigeaient d'être servis prestement dans les bars parisiens et ils vociféraient bistro, bistro, ce qui, dans leur langue, signifie vite et qui a donné le nom bistrot, rapide.
Vous m'apprenez quelque chose, c'est merveilleux ça.
Quel type de vin boit-on alors ?
Alors, au départ, des vins bon marché. Durant longtemps, en fait, la qualité des vins de bistrot ne se mesurait pas en caudalie, c'est-à-dire en longueur en bouche comme maintenant, ou en complexité aromatique, mais en degré alcoolique. En gros, le 9 degrés était meilleur que le 8, mais un peu moins bon que le 10. Des vins qui étaient livrés en vrac et qui provenaient des régions proches des villes. Ainsi, à Paris, les vignobles de la Loire ou de Chablis sont devenus populaires dans la capitale, de leur proximité avec Paris. À Lyon, ce sont les vins de Beaujolais ou des Côtes-du-Rhône qui se sont imposés. Ballon de Rouge, Blanc Limé, Blanc Casse ont refait le monde accoudé aux zingues en s'abreuvant de pinards pas chers. Et il faut le dire, souvent pas très bons.
Alors aujourd'hui, ça a bien changé, vous le confirmez, hein, Manon Fleury.
Tout à fait.
Eh bien évidemment, les temps changent, mon bon monsieur. Depuis les années 60, la consommation de vin a été divisée par deux en France. La quantité baisse, mais la qualité monte. Le phénomène de la bistronomie est arrivé dans les années 90, avec une exigence de mieux boire, ce qui a permis l'émergence de nouvelles tendances. L'arrivée des bons vins du Languedoc, par exemple. Ouais. Le bio, le vin nature, quand il est bien fait, c'est quand même agréable. Ils font un carton dans ces bistrots bobos.
Mais pas que.
Non, pas que, mais toutes les régions veulent en être aujourd'hui. Hein. Beaujolais, Loire, Bourgogne, Vallée du Rhône. Les bons vignerons créent des cuvées faciles, digestes, accessibles pour conquérir ces lieux et cette clientèle qui consomme. Les termes gouléant, croquant, fruité, glou-glou qualifient ces nouveaux vins de comptoir.
Mais en revanche, on ne croise pas beaucoup de Bordeaux, je trouve, dans vos histoires de bistrot.
Pas
et vous en avez apporté un très
vrai.
Bon. Là.
Ben oui. Vrai, et j'ai une théorie qui explique l'absence de ces Bordeaux, ce qui a d'ailleurs contribué au fameux Bordeaux bashing, vous savez, cette mode anti-vin de Bordeaux, partie un peu des bistrots. La bistrot a toujours voulu garder un statut un peu à part, vous savez, d'un vin aristocratique, le vin prétentieux, le vin du dimanche, du notaire de province. Il n'a pas voulu s'acoquiner avec les plats canailles des bistrots. C'est en train de changer et il y a aujourd'hui, je vous le démontre, des vins de Bordeaux,
ah oui,
du Médoc, qui sont tout à fait... des vins de ce style, c'est-à-dire gourmand, accessible, immédiat. C'est le château Paloumet, c'est un millésime 2019, c'est vous dire. Et aujourd'hui, à boire, c'est absolument délicieux.
Qu'est-ce que vous en pensez, Manon Fleury, tiens, de ce millésime?
C'est très bon. Je trouve que ça se boit, je pense, assez facilement. Il y a des arômes de cerise. Je trouve que c'est très...
Il y a un côté fruits rouges, il y a un côté média. Il y a des tanins qui sont assez souples.
Ils sont assez souples.
C'est
ouais,
élégant. C'est pas un vin prétentieux non plus. Et je sais que Jacques ne peut plus
nez
trop boire.
Mais au nez, simplement. Vous n'avez pas le droit de boire, Jacques
nez,
Weber.
J'ai la votre femme qu'il est très bien travaillé. Il y a
ouais,
beaucoup
et c'est élégant, mais pas trop travaillé non plus. Il y a un bel équilibre.
Et pas trop, voilà, ouais.
Et ben voilà, vous avez un beau nez.
Je sais pas si j'ai un nez.
C'est un pic, c'est une péninsule. Allez, Jacques Weber, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants.
D'accord.
Quel est le goût de votre enfance, Jacques ?
Les crêpes, c'est une des choses qui m'a énormément marqué. Oui. Et bizarrement, le pot-au-feu.
Ah, bah voilà.
Le pot-au-feu et la choucroute. Ce dont on avait rarement droit à ça, mais le pot-au-feu, je trouve ça sublime.
C'est
mais
bien ça.
Le pot-au-feu, il faut choisir la viande.
Ah, bah oui.
Ah, bah il faut qu'elle soit complètement fondante. Sinon,
puis il faut qu'elle cuise
prendre
longtemps.
La queue de taureau, il faut aller à Madrid et prendre la queue de taureau.
Bah ballon, voilà. Macreuse, il y a bah un beau voilà, morceau. Voilà. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo, Jacques Weber?
Yaourt.
C'est rapide. Ça
fait je suis très con, mais j'adore le yaourt. Un petit cuillère de miel dessus, ou même comme ça, j'adore ça, ça fait du bien.
Votre plus beau repas?
Alors, chez Marc Vera, et même à un moment, un jour, Marc m'a fait le cadeau inimaginable, et c'était une circonstance assez exceptionnelle, de faire débarquer sa brigade chez moi. Et ce qui est hallucinant, c'est que le jour même, c'était... C'est pour ça, c'est un peu triste que je vais dire, mais c'est pas grave. C'était la mort de ma maman. Et je l'ai appris 2 heures avant, donc j'allais pas annuler. C'était comme m'a dit ma femme, c'était idiot d'annuler le dîner. Donc on a fait semblant, mais en même temps, c'est le plus beau dîner du monde.
Votre
grand monsieur.
Pire repas.
Alors, je le dis, je le hurle. Cessez d'aller aller à la mer Poulard. Ce sont des escrocs absolus. C'est dégueulasse. C'est de la poudre d'œuf. Ce ne sont pas des œufs. Et ils te filent, ils te foutent une petite queue de pâte de homard dans l'omelette. Ils te disent omelette au homard et ils te font payer 50 euros. C'est un scandale ambulant. Ce sont des.
Préciser que c'est au Mont-Saint-Michel.
Au Mont-Saint-Michel. C'est le scandale absolu.
J'aime votre constance parce que c'était le même coup de gueule il y a
moi,
quelques années
ça
quand
m'a
vous êtes venu.
À vie,
vous n'y êtes pas retourné.
Non, parce que j'étais tellement heureux. Parce que, attends, le Mont-Saint-Michel, c'est magnifique. Bien et sûr. Tout. Puis la mer Poulard, c'est très énorme.
Vous en faites des cauchemars la nuit encore.
C'est scandaleux.
Et le mot de la fin, FIM, Jacques Weber?
Je crois que c'est la gourmandise, c'est partager. Ce qui est le plus beau dans le repas, c'est le partage avec les gens. Si vous êtes avec des crétins, ça n'a pas la même saveur. Non, mais
ça
n'a pas,
pas
le même goût. Et ben moi, j'ai des amis, par exemple, Huster, que j'adore. Mais si Huster, je ne peux pas partager un Bordeaux avec lui. Il n'aime que le Coca-Cola. Et ça ne va rien lui faire.
C'est pas pareil. C'est on l'aime voilà. beaucoup, mais on ne l'a pas invité parce que voilà, on en est, on est plus 20 de nos régions.
J'en parle dans mon bouquin de Francis, c'est quelque chose que
j'adore. Oui, absolument. Vous en racontez de sa folie. Vous en parlez. Merci, Jacques Weber. On était heureux de partager.
J'étais très heureux aussi, malgré le fait que je n'ai pas pu boire avec
mais non, mais écoutez, partie remise. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime aux éditions de l'Observatoire. Et merci à vous, Manon Fleury.
Merci, Laurent.
Chef engagé avec votre beau livre Céréales. Et on va goûter votre cuisine au Perchoir Doménil dans le bois de Vincennes. En attendant d'aller goûter votre cuisine dans votre adresse, non pas là pour le coup résidentielle éphémère, mais bien perpétuelle prochainement.
Une adresse à moi, ouais, dans quelques mois.
Eh bien, merci.
C'est où?
Ah ben, elle ne peut pas dire. Dire encore.
Ah, elle n'a pas le droit de dire. Rive droite, rive gauche.
Ah. Centre,
alors
centrale.
On vous dit,
centrale.
Comme dans notre métier, on dit merde.
Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Vous retrouverez tout sur Europe 1.fr, le podcast et les recettes. Bon week-end et bonne table.